Bonjour Agathe.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
De par les causes, on peut se dire que l'aphasie, ça va aller qu'en progressant dans notre société et ça va toucher inévitablement beaucoup de familles, des gens qui auront... Et aussi, on peut penser à tout le personnel médical qui entoure ces personnes, ces familles-là, qui auront à interagir avec des personnes aphasiques. Et vous êtes là un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension encore face à l'aphasie.
Effectivement, c'est un trouble du langage qui est peu connu malgré sa grande incidence au Québec. Donc, comme vous l'avez dit, on parle de 20 000 personnes approximativement. Donc, c'est beaucoup. Puis avec le vieillissement de la population, c'est sûr qu'on va être amené, à communiquer avec de plus en plus de personnes aphasiques. Et on se doit d'outiller les familles qui gravitent autour de ces personnes-là.
Pourquoi le fait que notre société est vieillissante peut avoir un impact sur l'aphasie?
En fait, c'est parce que souvent, ça découle d'un AVC. C'est la cause principale qui va engendrer l'aphasie, donc un accident vasculaire cérébral. Il peut y avoir d'autres causes également qui vont engendrer des dommages au niveau du cerveau. Par exemple, un traumatisme crânien, donc une blessure au niveau de la tête suite à un accident de la route, la pratique d'un sport, par exemple. Ça peut être aussi dû à une infection au cerveau ou à un anévrisme. Mais le plus souvent, c'est vraiment dû à un accident vasculaire cérébral.
L'aphasie, c'est vraiment, Agathe, une atteinte au cerveau.
Oui, dans la zone du langage, plus spécifiquement.
Elle est où, cette zone-là?
Donc, le plus souvent, ça va être dans l'hémisphère gauche chez les personnes droitières. Donc, c'est dans la partie gauche du cerveau.
Et ça attaque que cette zone-là, la zone de la parole, de la communication?
L'aphasie, ça touche principalement le langage. Donc, c'est l'ensemble des codes linguistiques qui nous permettent de communiquer, de transmettre un message, mais aussi il peut y avoir des atteintes au niveau de la parole. Mm-hmm. La parole, c'est vraiment l'actualisation du langage, si je peux dire ainsi. Ce sont les muscles de la parole, donc les cordes vocales vont vibrer, nos muscles vont se mettre en action pour nous permettre de produire la parole.
Mm-hmm. Ce que je trouve peut-être plus difficile à saisir avec l'aphasie, c'est la différence entre l'incapacité de parole et l'incapacité de langage. Il y a une nuance à faire.
Tout à fait. Par exemple, le fait que la personne aphasique ait du mal à trouver ses mots au moment voulu, à formuler des phrases, à participer à une conversation, ça appartient au trouble du langage. Tandis que, par exemple, le fait qu'elle ait du mal à bien articuler les sons, certaines personnes aphasiques vont avoir une mollesse articulatoire ou vont avoir plutôt une articulation molle, dépendamment des personnes. Ou si elle a un problème au niveau de la voix, une voix rauque, une voix éteinte, un problème au niveau de la respiration, parfois c'est le souffle qui va être coupé. Là, on parle plus d'un trouble au niveau de la parole à ce moment-là.
Mais est-ce que la personne aphasique vit avec ces deux incapacités-là?
Souvent, va avoir, en plus du trouble du langage, des atteintes au niveau de la parole, effectivement. C'est fréquent.
Et il y a une difficulté de compréhension également qui s'installe.
Des questions toutes personnes simples. Aphasiques. Effectivement, il y a des personnes aphasiques chez qui ça va être surtout l'aspect expressif qui va être atteint. Donc, la prononciation, la formulation des phrases. Mais il y a des cas d'aphasie, par exemple, l'aphasie de Wernicke qui va atteindre la zone de Wernicke dans le cerveau. Chez ces personnes-là, il va avoir une atteinte importante au niveau de la compréhension. Donc, comprendre des questions simples, même des questions qui se répondent par oui ou par non, ça va être très laborieux pour la personne d'y répondre.
Et qui font partie du quotidien de la personne, là,
exactement.
Habituellement. Je vous écoute, Agathe, je me rends compte que c'est très variable, l'aphasie, dépendamment de comment ça touche la personne. Et bon, chaque cas est très différent.
Tout à fait. Ça dépend de la zone qui est atteinte au niveau du cerveau. Ça dépend aussi de l'étendue des dommages cérébraux. Et puis, ça dépend de l'ampleur des difficultés de communication qui vont être vécues. On peut avoir une aphasie qui va être légère, modérée ou sévère. Dans les cas d'aphasie globale, là, c'est vraiment le cas le plus sévère d'aphasie où la communication va être quasi nulle, ça va être très difficile de s'exprimer et il va y avoir des difficultés importantes au niveau de la compréhension également.
Est-ce que ça peut toucher les enfants?
Ça peut toucher les enfants après un traumatisme crânien, plus rarement après un AVC, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un AVC, ça peut arriver à tout âge, hein, chez les femmes, chez les hommes, sans distinction, mais le plus souvent, ça va être à l'âge adulte.
En fait, si l'on veut prévenir l'aphasie, il faudrait penser d'abord et avant tout à prévenir l'AVC.
Oui, tout à fait, parce que les facteurs de risque de l'aphasie sont les mêmes que les facteurs de risque de l'AVC. Donc, on parle de diabète, d'un taux élevé de cholestérol, de sédentarité, de tabagisme également. Donc, ce sont des facteurs qu'on doit prendre en considération, d'où l'importance d'avoir une bonne santé, d'avoir des suivis médicaux réguliers.
Mm-hmm. Est-ce que l'aphasie touche, altère les facultés cognitives?
Oui, ça peut toucher les fonctions cognitives. Le langage en est une, mais ça peut toucher également la mémoire, l'attention, la concentration. Les personnes aphasiques vont avoir beaucoup plus de difficultés à se centrer sur une tâche. Également, des tâches qui étaient vraiment simples auparavant, le fait de se préparer un repas, par exemple, ça demande des étapes pour la planification et ça va être très laborieux pour la personne d'enchaîner chacune de ces étapes-là, de se rappeler « Ah, par quoi il fallait commencer déjà? » Il peut aussi avoir des agnosies. Une agnosie, c'est une difficulté à reconnaître, par exemple, des objets, quand on parle d'une agnosie visuelle. Donc, la personne va avoir une bonne vision ou même une bonne audition, mais elle va avoir du mal à reconnaître les sons qu'elle perçoit ou de reconnaître les objets qu'elle voit.
OK. Comme par exemple, même si je travaille avec ce micro tous les jours, je pourrais avoir du mal à identifier à quoi il me sert maintenant.
Exactement. À attribuer à un objet une fonction, ça va être très difficile.
Mais en même temps, Agathe, et je pense que c'est important pour vous aussi, votre présence est liée à ça, de démystifier, d'étabouiser également et de dire que ce n'est pas une déficience intellectuelle, l'aphasie.
Tout à fait. Ce n'est pas une déficience intellectuelle. Ça ne touche pas du tout l'intelligence de la personne, d'où l'importance de continuer à parler, à s'adresser à la personne aphasique comme un adulte. Donc, parfois, les gens vont avoir tendance, avec une certaine maladresse, à infantiliser la personne, à parler à sa place, parce que, bon, on sent notre proche vulnérable, on veut l'aider, c'est pas pour mal faire, mais c'est important de continuer à la traiter en adulte et en personne responsable également.
Mm-hmm. Quand une personne, une famille vous consulte, Agathe, pour de l'aphasie, vous commencez par quoi?
Tout d'abord, on commence par une évaluation, c'est certain, pour vraiment préciser les atteintes au niveau du langage. Est-ce qu'on est en présence d'une personne qui a des difficultés uniquement au plan expressif et dont la compréhension est préservée? Ou est-ce que la compréhension est atteinte au même niveau qu'au niveau expressif? Mais je dirais que ce qui va être important pour tous les types d'aphasie, ça va être d'inclure les proches dans le processus de réadaptation. C'est très important. Inclure les partenaires de communication. Puis l'approche qui est vraiment préconisée avec les personnes aphasiques, c'est une approche qui est conversationnelle. On va beaucoup travailler en conversation pour rendre la personne le plus autonome possible dans ces situations de la vie de tous les jours où elle est amenée à communiquer.
Et j'imagine, on le disait tout à l'heure, chaque personne est unique et l'aphasie touche les personnes de façon différente. J'imagine que pour le processus de réadaptation, c'est la même chose.
Tout à fait. Donc, il y a des personnes aphasiques, par exemple, qui vont beaucoup bénéficier d'activités artistiques pour se réadapter.
Je pense entre autres au théâtre aphasique.
C'est vraiment un organisme extraordinaire qui prône la réinsertion sociale des personnes aphasiques par des activités de théâtre, donc ateliers d'art dramatique ou activités représentation théâtrale devant le grand public. Donc ça, c'est des ateliers qui peuvent être grandement bénéfiques pour les personnes aphasiques. On travaille l'addiction, on travaille le fait de parler en public. Ça lui permet de prendre confiance en soi, de retrouver vraiment une certaine aisance. Et puis également d'être entouré d'autres personnes aphasiques, ça peut être quelque chose qui est sécurisant, qui est valorisant aussi pour la personne de se sentir bien épaulée dans ses difficultés.
De se reconnaître aussi dans d'autres figures de cas. La chorale aussi, je pense. Hein?
Oui, effectivement, il y a une chorale qui s'appelle le cœur de l'aphasie. Donc, cœur, C-H-O-E-U-R. C'est aussi une activité qui est organisée par l'Association québécoise des personnes aphasiques. C'est vraiment une activité extraordinaire parce que le chant, ça permet à plusieurs personnes aphasiques de retrouver plus facilement certains mots, plus qu'en parlant ou en conversant normalement.
Et plus que le chant solo, je pense. Hein?
Oui, le fait de chanter en chœur avec plusieurs personnes, ça peut être très aidant pour exprimer le mot voulu, effectivement, et accéder plus facilement aux mots.
Vous disiez, Agathe, qu'il est important dans ce processus de réadaptation d'inclure les proches, d'inclure la famille. On fait ça comment?
C'est très important, tout d'abord, de leur expliquer les difficultés auxquelles fait face leurs proches, parce que pour les membres de la famille, c'est nouveau aussi. Hein. C'est vraiment de s'adapter à des nouvelles difficultés qui n'étaient pas là auparavant. Ça leur demande une certaine adaptation. Donc, on doit leur enseigner des stratégies de communication, comment réagir face à certaines situations. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à comprendre notre proche, mm-hmm. quand il nous communique un message? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit que notre proche ne nous comprend pas, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre pour communiquer notre message d'une autre façon? Parfois, ça va être de passer par d'autres aspects comme le langage écrit ou un cahier de communication, un tableau de communication. Donc, on va vraiment leur donner des outils pour aider.
Est-ce que de fonctionner par des images, par exemple, montrer l'image d'une pomme ou d'une fourchette, ça peut aider?
Oui, pour certaines personnes aphasiques, effectivement, il y en a même pour qui ça va aider de dessiner. Il y en a qui vont avoir du mal à exprimer le mot fourchette, pour reprendre votre exemple, mais ils vont être capables d'écrire le mot, ils vont être capables de la dessiner. Donc, ça va être de passer par différentes modalités et ça ne va pas toujours être la même modalité pour chaque personne aphasique.
Mm-hmm. Est-ce que l'aphasie peut diminuer, s'amenuiser ou ça reste toujours au même degré?
En fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne peut pas guérir l'aphasie. Toutefois, il y a toujours une progression qui se fait et même plusieurs années après les dommages qui ont été faits au niveau du cerveau. Souvent, la progression va être plus rapide dans les premiers mois qui suivent les dommages, mais par le mécanisme qu'on appelle, c'est les cellules avoisinantes qui vont prendre la relève. Donc, c'est la plasticité neuronale. Il y a d'autres zones du cerveau qui vont prendre la relève des fonctions qui sont défectueuses, mm-hmm. des ondes qui sont défectueuses.
Donc, une personne aphasique peut espérer retourner sur le marché du travail, retrouver un quotidien qui ressemble, peut-être n'est pas identique à celui du passé, mais ressemble et retourner à ses activités.
Il y aura des adaptations qui devront être faites dans le milieu de travail. Ça dépend aussi du travail qu'occupait la personne auparavant. Par exemple, si c'est un travail qui demandait de répondre au téléphone, de communiquer beaucoup versus un travail où il y a moins d'interaction avec les gens, les difficultés ne vont pas être les mêmes et les défis non plus. Mais il y a une vie après l'aphasie. Ça, c'est important de le savoir. Il y a bel et bien possibilité de s'améliorer.
Est-ce que les personnes aphasiques vivent une certaine détresse psychologique? Est-ce que c'est associé, par exemple, à davantage de dépression?
Oui, tout à fait. Particulièrement dans les mois qui suivent, par exemple, l'AVC, la personne va avoir plus de ce qu'on appelle la labilité émotionnelle. Donc, souvent, elle va être portée à rire ou à pleurer pour des riens. À réagir fortement au plan émotif. Donc oui, il y a possibilité de dépression, effectivement.
Et est-ce qu'il y a des spécialistes pour encadrer aussi ce volet-là plus émotif?
Oui, en fait, l'idéal, c'est que la personne aphasique soit entourée par une équipe multidisciplinaire. Donc, il y a l'orthophoniste qui va pouvoir aider au plan de la communication, mais également un psychologue, un travailleur social, un ergothérapeute ou un physiothérapeute si la personne a en plus une atteinte au niveau moteur ou sensitif.
OK. Alors, il peut y avoir aussi une atteinte au niveau moteur ou plus corporel, en plus de toutes les facultés cognitives et du langage et de la parole.
Okay. Effectivement. Le plus souvent, ça va être le côté droit. Donc, on va parler d'une hémiplégie s'il y a une paralysie complète du côté droit ou une hémiparésie, c'est une paralysie plus partielle.
Mm-hmm. Et lorsqu'une personne vit un AVC, que ses spécialistes de la santé peuvent vérifier qu'il y a une atteinte au cerveau, est-ce que, inévitablement, cette personne est référée à cette équipe multidisciplinaire-là?
Normalement, oui, parce que la personne arrive le plus souvent en soins aigus après un AVC ou après un traumatisme crânien. Et suite au suivi qui a été fait dans le centre hospitalier, la personne va être suivie dans ce qu'on appelle un centre de réadaptation, où là, il y aura vraiment une équipe multidisciplinaire qui va graviter autour d'elle et qui va offrir un suivi sur plusieurs mois.
Mm-hmm. En cette semaine de l'aphasie, Agathe, est-ce que l'on peut penser ou espérer que de plus en plus, l'aphasie se fera connaître auprès du grand public parce que, on le sait, on l'a entendu tout à l'heure en intro, 4000 nouveaux cas par année, c'est énorme. Est-ce que nos infrastructures médicales de santé sont prêtes à recevoir tous ces nouveaux cas-là et à bien comprendre ce qu'est l'aphasie?
C'est ce qu'on souhaite, c'est que le public soit davantage informé de ce qu'est l'aphasie et sache comment y réagir, comment prévenir aussi, puis aider les proches qui présentent ce type de problématique-là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes parfois dans le système public. On n'a pas nécessairement les soins qu'on veut au moment souhaité. mais il y a des professionnels qui sont là pour aider, puis qui sont outillés aussi pour aider les proches. Mm-hmm. Puis aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe des associations, il y a le regroupement des associations pour personnes aphasiques du Québec, l'Association québécoise des personnes aphasiques qui est située à Montréal et qui offre vraiment des bons outils pour les personnes aphasiques et leurs proches. Mm-hmm. Donc, on parle de différentes activités de sensibilisation et qui offre des contextes aussi d'entraide pour ces familles-là.
Oui, c'est important parce que, évidemment, ça peut bouleverser un quotidien.
Tout à fait.
Agathe Pula, vous êtes orthophoniste, fondatrice de la clinique Multithérapie Proaction. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci à vous.